Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
On a appris, au cours de la nuit, le décès de Meat Loaf, chanteur, une icône, si on veut, qui est donc mort à l'âge de 74 ans. Alors, l'annonce s'est faite sur sa page Facebook et on précise que sa conjointe était à ses côtés, également plusieurs amis, et que ça a duré une période là, d'à peu près 24 heures. La cause du décès n'a pas été rendue publique. Et on rappelle évidemment ses faits d'armes, c'est-à-dire une centaine de millions d'albums vendus. Et non seulement un chanteur, mais aussi un acteur qui a joué dans plusieurs films, Fight Club et d'autres également. Alors, 74 ans, Meat Loaf qui est décédé. Bon, parlons un peu de COVID encore ce matin, mais surtout de ce qui se passe dans les classes du Québec. Je vous donne un exemple d'un courriel que j'ai reçu. C'est dans une école que je ne vais pas identifier, évidemment. On connaît l'Omerta. Disons que sur le lecteur de CO2, ça indique à peu près là, 2600 particules, là, les fameux ppm. Ce qui, évidemment, est au-delà de la norme. On sait que, normalement, c'est à 1500. Puis au-delà de 1500, on doit procéder à la ventilation de l'espace. Radio-Canada nous dit que si 70 % des appareils ont été livrés dans les écoles, seulement 42 % de ces appareils ont été installés et calibrés. Alors, on a du retard, je pense, sur l'échéancier. Ça, c'est un premier constat qu'on peut faire. Et l'autre constat, qui est assez bien illustré par le Journal de Montréal ce matin, c'est évidemment la consigne d'ouvrir les fenêtres. Puis, tiens, on pense à une journée comme aujourd'hui, là. On s'entend que c'est froid. Il y a des parents qui m'écrivent en me disant qu'il faut habiller les enfants plus chaudement. Je comprends, là, vous allez tous me dire, en tout cas, peut-être pas tous, mais beaucoup vont dire, « Ouais, mais là, c'est pas si pire. En fait, les inquiétudes, là, au-delà de la COVID comme telle, c'est la qualité de l'air dans la classe. Ça a un lien avec la COVID, mais qualité de l'air. Il y a des profs qui disent que même de voir les lectures sur ce capteur de CO2, ça devient comme une espèce d'élément de stress. Puis à quelle heure tu ouvres les fenêtres, tu les laisses ouvertes combien de temps? Puis là, les enfants gèlent dans la classe. C'est peut-être pas le plan de match idéal, mais on l'a échappé sur cette question-là aussi. Et pourtant, plusieurs experts, avec raison, ont mis l'emphase sur la ventilation. Puis la semaine dernière, le ministre Roberge disait que toutes les classes du Québec sont sécuritaires. Mais il y a beaucoup de classes où la lecture indique quand même des composantes très, très élevées. C'est 1500, 2000, 2400. Certains ont vu 3000. Ça veut dire qu'il faut tu puisses ventiler ta classe quand même de façon... Puis, juste pour compléter sur cette question-là, dans Le Devoir ce matin, il y a beaucoup, beaucoup de profs qui ne savent plus trop comment gérer la situation avec les masques. On s'entend là, que ce n'est pas un contexte, disons, agréable et idéal pour faire de l'enseignement puis pour recevoir de la matière des profs. Souhaitons que ça se passe le plus vite possible. Mais, tu sais, les enfants sont capables de résilience. Mais, tu sais, quand il fait 12 dans la classe, là, puis 13 degrés, là, on peut pas dire que ça a du bon sens, là, non plus. Alors, aujourd'hui, c'est clair, si vos enfants vont dans une école primaire, secondaire, là, ils risquent d'avoir froid pas mal dans l'école. Maintenant, semble-t-il que le pic en termes d'hospitalisation serait atteint. Point de presse hier du premier ministre Legault, du ministre de la Santé Christian Dubé et également du directeur de la Santé publique, Dr Boileau. Premier constat, ils avaient peu de choses à dire. D'abord, M. Legault, sentant la pression de l'Ontario qui, un petit peu avant, avait annoncé pour le 31 janvier réouverture des restaurants, des gyms, bref, toutes les activités qui étaient paralysées vont pouvoir redémarrer le 31 janvier, une dizaine de jours. C'est sûr qu'on peut imaginer, puis là, on n'est pas dans la science nécessairement, mais on peut imaginer la réaction du premier ministre, qui se compare beaucoup avec les autres, et qui voit l'Ontario, par son premier ministre, retourner vers une certaine normalité, ça va être 50 % de la capacité, là. En France, on a annoncé avec le passeport vaccinal, et c'était déjà beaucoup plus ouvert qu'ici. Et puis vous allez le voir dans le sondage dont je vais vous parler tantôt, les Québécois, regarde ça, là, se disent, l'Ontario décide d'ouvrir. La France, qui a passé des moments difficiles, puis ils ne sont sûrement pas à la même étape que nous pour cette autre vague de pandémie, mais je vais en reparler avec Fabrice de Pierrebourg un peu plus tard, il est à Paris. Alors, les gens se disent, j'ai été deux fois, trois fois vacciné, j'ai ma passe sanitaire, mon passeport, là, si on veut, et je ne peux pas me livrer à mes activités. Je ne peux pas aller au resto, je ne peux pas aller m'entraîner au gym. Tout ça m'est interdit. Comprenez que c'est dur à admettre pour bien des gens. Alors, semble qu'on a le pic, peut-être, mais ça demeure évidemment élevé. Et la pression, puis on le répète depuis le début, la pression est forte sur le réseau de la santé parce que c'est un réseau qui est faible, qui est plus que vulnérable à chaque fois qu'il y a un événement. Et ça veut dire qu'on manque de personnel de façon chronique. Ça veut dire qu'on est obligé de mettre des patients dans deux chambres. Katia Gagnon parle du nombre d'hospitalisations. Il y en a à peu près 1000 patients par jour qui attrapent le virus à l'hôpital. Et on raconte l'histoire de Pierre Trudel, mon ancien collègue de la radio, et ça a été raconté par son fils Sébastien la semaine dernière. Pierre était faible, fait un infarctus, confus, puis une fois à l'hôpital, il attrape la COVID. Il est avec le voisin de chambre, tu sais. Je veux dire, on comprend tout ça, mais ce que Christian Dubé disait hier sur rebâtir le système de santé à partir de la base, là, de la fondation, ça suppose. Puis juste de comprendre à quel point le système est archaïque dans la prise de données, comment voulez-vous prendre des décisions quand on n'est pas capable de vous donner l'information de qualité? Et j'ai senti hier, je dirais pas une friction, mais une tension peut-être entre le premier ministre et la santé publique. Pourquoi? Quand on posait des questions, les journalistes, à plusieurs reprises, M. Legault disait, M. Boileau va répondre, Dr Boileau va répondre. Oui, mais pourquoi vous n'êtes pas capable d'ouvrir, Dr Boileau, voulez-vous répondre? Tu sais, tu sentais là, que sur le plan politique, c'est pas vrai qu'ils m'ont mangé le coup de bâton. Ce sont les décisions de la santé publique. On va en reparler avec le Dr Boileau. Alors, qu'est-ce que les Québécois pensent des mesures qui ont été prises depuis les dernières semaines et, je dirais, l'appréciation de ces outils pour combattre la pandémie? Alors, c'est un sondage croppe la presse ce matin. De plus en plus de Québécois ont eu la COVID, on le sait, là, avec ce variant. Et, en fait, les gens connaissent probablement tous quelqu'un qui a testé positif à la COVID. Et ce qui est clair dans le sondage, c'est que la situation a évolué depuis un an. Quand on a eu le couvre-feu l'an passé, rappelez-vous, on amorçait la vaccination, on a vu cette catastrophe dans les centres de soins de longue durée, et les Québécois comprenaient qu'il fallait stopper les éclosions, stopper cette vague, et on était prêt à vivre avec ça, même si ça représentait des sacrifices, notamment pour les propriétaires de bars, de restaurants. Bon. Là, ce deuxième confinement d'hiver, là, ça marche moins bien. Seulement 59 % des gens aujourd'hui sont d'accord avec le fait de ne pas pouvoir recevoir des amis à la maison en nombre réduit. de ne pas avoir de contact avec les autres, ou en tout cas très limité. L'an passé, c'était 80 % qui étaient d'accord avec cette mesure. Le télétravail, ça a l'air que vous aimez ça en masse, 86 %. Il y a seulement 56 % des répondants qui sont d'accord avec la fermeture des bars, des restaurants et des cinémas, des salles de spectacle. 70 % des gens étaient d'accord avec la décision de reporter la rentrée scolaire. Puis le couvre-feu, personne n'a adhéré à ça. Personne n'a cru que c'était un outil efficace dans la mesure où tu as une forte proportion, là, c'est admirable, pourcentage du nombre de Québécois vaccinés. Alors, si je résume, là, il y a un an, on comprenait. Maintenant, on comprend de moins en moins. Et ce qui est encore plus difficile, c'est le fait qu'on n'est pas capable de nous dire quels sont les critères. Il n'y en a pas qu'un seul, là. Quels sont les critères qui vont permettre à la santé publique de dire « OK, le système n'est pas menacé ». C'est combien d'hospitalisations? Et on n'est surtout pas capable de nous donner un calendrier. Et là, quand tu répètes point de presse après point de presse, qu'on voit la lumière au bout du tunnel, faire prendre, je pense, c'est l'image de Marc qui a dit, c'est comme... en fait, on souhaite que ça ne soit pas un camion qui s'en vient en sens inverse, la fameuse lumière, là. Mais tu sais, c'est parce qu'on l'a utilisé beaucoup, cette expression-là, puis à chaque fois, il y a des mesures de restriction qui étaient imposées. Maintenant, on a eu des nouvelles de notre pâtissière Stéphanie Ariot, qui est installée à Jonquière, la pâtisserie Vite des Pêchers. Le fait qu'elle annonce l'ouverture, qui n'est pas autorisée de sa pâtisserie, bien évidemment, les gens se sont rués. Et parmi les gens qui se sont rués, la police, parce que la santé publique a porté plainte. Alors, il semble que on a fait un rappel et on a même été peut-être insistant, on va lui parler tantôt, mais les policiers ont établi l'identité de la propriétaire, de clients, parce que les clients n'ont pas plus le droit d'être là. Et là, l'enquête va se poursuivre. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans les prochains jours là-dessus. Bon. On poursuit avec quand même un dernier volet, c'est-à-dire les gens qui voyagent. Et là, ça coûte une fortune. Dynacair, la compagnie qui a ramassé le contrat, depuis le début, c'est une compagnie inefficace, mais c'est pas grave. On leur donne des contrats. Biron fait un travail remarquable, ils sont revenus. Et les gens qui sont passés par Biron ont eu un résultat très rapide dans les 24-36 heures. Dans le cas d'Anakin, oubliez ça, là, c'est des journées d'attente. Et tu dois rester chez vous parce que tu es en isolement. Et il y a plusieurs experts qui considèrent qu'actuellement, c'est inutile. Et il y a tout l'enjeu des camionneurs. Je rappelle qu'il y a ce mouvement qui s'organise. Je ne suis pas capable de vous dire quel est le pourcentage de camionneurs qui... normalement, ferait la liaison Canada-États-Unis qu'ils ne feront pas. Alors, il y aura une manif la semaine prochaine, puis il y a des camions qui vont partir d'un peu partout au Canada pour converger vers la colline parlementaire. Alors, plusieurs disent qu'on va se retrouver, pas avec une pénurie comme telle, mais probablement avec moins de choix. Parce que ça va être plus compliqué d'aller chercher certains produits. Déjà que c'est une industrie où le manque de personnel, comme dans beaucoup de domaines, et criant. Alors, ce sera quand même intéressant à suivre, ce dossier-là. Maintenant, vous vous souvenez peut-être quand on a parlé des concessionnaires auto qui imposaient des frais quand les transactions étaient complétées. Et c'est un recours collectif. Et on rappelle que la stratégie comme ça d'ajouter des montants et la préparation par rapport au prix affiché c'est une pratique qui est malheureusement pour eux, là, ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est illégal. Et les gens pensent que c'est correct parce qu'ils ne sont pas au courant que la loi a changé. Et quand vous dites que vous avez 220 concessionnaires qui le font, puis on donne un exemple ce matin dans la presse, qui a Longueuil, qui a ajouté au montant du véhicule sur lequel... l'acheteur et le vendeur s'est entendu, 500 $ donc pour le programme de mise en route. inspection, préparation, nettoyage, décontamination du véhicule. Dans un autre cas, allemand Volkswagen, un véhicule affiché à 45 000. Finalement, au moment de la transaction, ça a grimpé à 47, pratiquement 48 000. Pourquoi ces augmentations? Là, je ne sais pas de quoi on parle, peut-être qu'il y a des auditeurs qui vont m'éclairer. Des frais administratifs, une taxe d'air, D'AIR, aucune idée ce que c'est. Et également, le marquage antivol qui avait été refusé, frais de transport et de préparation. Alors, les gens qui font le tour des commerces se disent, « Ben, coudonc, les concessionnaires auto, la pratique est tellement large que tu as l'impression que c'est légal. » Alors, ça ne l'est pas. Mais en même temps, il y a rareté de véhicules, fait que réponse, si t'en veux pas à ce prix-là, pas grave, on va trouver quelqu'un. Et ça, vous le savez, là, il y a beaucoup de ce type de réaction chez les concessionnaires. Et puis un mot sur l'Ukraine, pour vous dire qu'il y aura une rencontre entre le secrétaire d'État américain, Blinken, et son vis-à-vis russe, Lavrov, pour essayer d'empêcher l'invasion de l'Ukraine et donc désamorcer la crise. Je lisais ce matin que plusieurs analystes, et Jean-François Lépine va nous en parler tantôt, disent qu'il y a tellement, tellement de soldats que ça ne peut pas s'expliquer par une manœuvre, par des manœuvres militaires là, de forme d'entraînement. Il y a trop de soldats. Est-ce que Poutine va accepter de retirer ses troupes? La diplomatie est toujours à l'agenda, mais les observateurs qui regardent ça, même le premier ministre Trudeau, a dit on a l'impression qu'on se dirige vers une guerre. En tout cas, il n'y a rien de rassurant dans ça.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Beaucoup de questions des auditeurs concernant la vaccination, concernant le virus lui-même, puis des comparatifs avec ce qui se passe dans le monde. Donc, j'ai pensé réinviter une fois de plus le Dr Carl Weiss pour essayer de répondre à vos questions. Dr Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
D'abord, première question. Hier, au point de presse, le premier ministre français a parlé de l'existence de nouveaux variants en disant, et je cite, « Ce sont comme des espèces de sous-produits d'Omicron et jusqu'à maintenant, ce n'est pas un enjeu de santé publique. » Êtes-vous au courant de ça?
Ben, il y a des nouveaux variants ici et là qui sont répertoriés de par le monde. Il y a un système qui s'appelle le système KISAID qui fait une espèce de suivi de ces variants-là. Des variants spécifiques, vous savez, il y a des gens aussi qui essaient de publier des variants pour se faire un nom pour toutes sortes de raisons. On a vu ça à Chypre récemment avec potentiellement un variant qui aurait été un mélange Delta et Omicron. On a vu un autre variant supposément publié en France par l'équipe de Marseille, mais qui était finalement un variant réel, mais qui n'était pas très très problématique. Donc, il va en avoir d'autres variants. Puis, Omicron, en effet, risque d'avoir des sous-variants à un moment donné, mais qui risquent d'être des sous-variants qui vont ressembler, si vous voulez, aux variants initiales qu'on a actuellement au Québec et qui circulent, parce que c'est un variant très efficace qui se transmet très bien. Donc, le virus n'a pas intérêt à trop changer. Donc, on va en avoir des sous-variants, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose à l'étape actuelle.
Question d'un autre auditeur qui dit, avec la triple vaccination, il parle de son cas, trois fois vacciné, respect des consignes, il dit, j'ai l'impression qu'on abuse dans les mesures de contrôle. Autrement dit, est-ce que, puis je comprends que c'est pour sauver le système de santé, mais quand vous regardez tous ces éléments-là, est-ce que vous pensez qu'il serait maintenant le temps de déconfiner un peu plus?
Ben écoutez, moi je pense sérieusement qu'il faut... Les 4 prochaines semaines vont être difficiles. Donc c'est clair qu'on ne peut pas déconfiner de façon absolue parce qu'on a... on est dans une mauvaise situation au Québec actuellement et on paye un peu l'addition de notre impréparation par rapport à cette cinquième vague. Néanmoins, il y a quand même des endroits, à mon sens, où le risque est relativement faible. Et je pense que si on veut garder l'adhésion de la population et encourager encore les gens à tenir, si vous voulez, la route, il faut avoir certaines échéances. C'est-à-dire qu'il faudrait essayer de prévoir et de dire aux gens, vous savez, c'est comme la ligne d'arrivée. Il faut que les gens soient capables de voir la ligne d'arrivée pour continuer de faire un dernier effort et un dernier tour de piste. Sinon, ça devient décourageant. Alors, est-ce que d'ici, par exemple, 2 semaines, on pourrait commencer à rouvrir certaines activités? Bien, on sait qu'il y a des activités qui sont peu à risque. Hein. On a beaucoup parlé des restaurants, par exemple. Je sais qu'actuellement, c'est un gros débat. Mais si on regarde les restaurants comme transmission d'éclosion au niveau de la COVID, c'est certainement pas un endroit où le problème était là. Parce que si c'est des gens qui sont doublement ou triplement vaccinés, avec des mesures où les gens sont quand même dans un état relativement contrôlé, avec bien sûr une capacité qui n'est pas pleine. Donc c'est le genre d'endroit où, puis on voit ce qui se passe dans d'autres juridictions au Canada, que ce soit l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta ou aux États-Unis ou même en Europe. Et les chiffres sont nettement pas plus mauvais là-bas, au contraire, ils sont parfois même meilleurs que ce qu'on a au Québec. Donc, il faut continuer à garder nos mesures sur certains aspects. Il faut donner une échéance qui, à mon sens, pour éviter la fatigue, si vous voulez, pandémique, qui commence à se ressentir et on le voit de plus en plus. On voit aussi que les gens qui ont déjà eu la COVID et qui ont été triplement ou doublement vaccinés et qui sont en effet très protégés, commencent à un peu abandonner, si vous voulez, leurs mesures. Et ils nous le disent souvent, je le vois avec des patients, et ils ont un peu raison, je ne peux pas les blâmer, et qui me disent, vous savez, j'ai eu la COVID, j'ai eu mes 2 doses ou 3 doses. Le risque pour moi, et c'est des gens qui ne sont pas du tout anti-vaccins, qui ne sont pas du tout des gens qui ont été contre les consignes qui ont été émises. Donc, c'est des gens qui ont été disciplinés, qui suivent ce qu'on leur dit, mais qui, à un moment donné, ont une fatigue pandémique et qui commencent à se poser la question en se disant « mais quand même, le risque pour moi est très faible et c'est vrai ».
Bon, on sait qu'il y a eu beaucoup de cas positifs. Et il y a des auditeurs qui me parlent de la COVID longue. On en a déjà parlé, Dr Weiss, vous et moi, mais est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce que ça veut dire une COVID longue, quels sont les symptômes, puis ça peut durer combien de temps?
Alors, on n'en sait pas beaucoup plus, je vous dirais, actuellement. Ce qu'on sait, c'est que les symptômes, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est principalement de la fatigue, c'est principalement de la difficulté à l'effort, donc des gens qui ont du mal à faire des efforts alors qu'ils étaient capables d'en faire auparavant. Ça semble toucher plus les femmes que les hommes et surtout, je vous dirais, le groupe d'âge plus jeune, donc les moins de 40 ans. Donc, et il y a des gens aussi qui se plaignent de ce qu'on appelle une espèce de brouillard, c'est-à-dire qu'ils ont plus de difficultés à se concentrer, plus de difficultés à faire leurs activités. On essaie de définir des critères actuellement, c'est-à-dire il faut avoir eu un test positif pour la COVID, il faut que la COVID ait été il y a au moins 4 semaines, donc il ne faut pas que ce soit quelque chose d'aigu. Il faut que les symptômes perdurent pendant, on va dire, au moins 4 à 8 semaines. Donc il ne faut pas que ce soit juste une fatigue temporaire. Et il ne faut pas qu'on ait d'autres explications comme cause de ces symptômes. Donc c'est un diagnostic d'exclusion. Il n'y a pas de test. Hein, donc je ne peux pas vous faire passer un test en vous disant oui, vous avez la COVID longue ou non, votre test est négatif. Donc actuellement, il n'y a pas de test. C'est pour ça que la vaccination est importante. Par contre, j'aime ça le souligner, parce que, par exemple, chez les plus jeunes, c'est vrai, la COVID n'est pas une maladie très, très sévère s'ils sont en santé pour la quasi-totalité d'entre eux. Donc, si vous avez moins de 40 ans, vous n'avez aucun problème de santé, vous faites la COVID, il ne va pas vous arriver grand-chose. Par contre, on sait que dans ce groupe d'âge-là, il y a des études qui montrent qu'un quart ou un tiers des gens, 6 mois plus tard, peuvent se plaindre de symptômes qui seraient des symptômes, je vous dirais, qu'on pourrait apparenter dans la COVID longue et qui donc sont plus problématiques pour leur vie de tous les jours sans mettre leur vie en danger, sans demander que ces gens-là aillent à l'hôpital pour des soins, mais qui vont les embêter dans leur vie de tous les jours. Donc, et on sait que la vaccination diminue le risque de COVID longue et ça, c'est important de le souligner.
Dr Weiss, encore une fois, merci. Bonne journée.
Vous aussi.
Au revoir. Dr Carl Weiss, qui est microbiologiste. et spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital juif de Montréal. Maintenant, je me tourne vers le nouveau directeur national de la santé publique, Dr. Luc Boileau. Dr. Boileau, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Beaucoup de questions pour vous. La première, peut-être qui est la plus importante, on sent une pression, vous le voyez dans les sondages, vous l'avez senti au point de presse, de la population qui, et c'est un peu ce que je disais avec le Dr. Weiss, on respecte les règles, nous sommes vaccinés une fois, deux fois, trois fois. Quels sont les critères qui vont vous guider pour être capable de dire « on lève certaines mesures » ?
Alors, c'est une question importante et complexe, mais je vais vous donner le principal critère. Le principal critère, c'est la capacité du système de soins, du système de surtout hospitalier, de desservir la population québécoise, pas juste pour des patients qui ont de la COVID, mais pour tous les autres patients qui ont besoin de ces services-là. Et vous le savez, il y en a beaucoup qui souffrent actuellement, qui attendent pour des chirurgies ou des investigations pour des maladies très graves. Alors, ça, c'est le gros critère. Et on vient de passer, et nous sommes toujours dans une période de très haute fragilité de ce côté-là. Vous le savez, là, il y a du délestage dans l'immense majorité des hôpitaux du Québec, et pas un petit, pas un gros. Alors, ça, c'est le premier critère. Est-ce qu'on est capable d'envisager une amélioration de la situation hospitalière et à quel rythme et à quel moment? Parce que nous sommes certains que lorsque nous allons lever des mesures, quelles qu'elles soient, même l'éducation cette semaine, va entraîner une augmentation des contacts et éventuellement donc des cas qui vont aller vers l'hôpital.
OK. Mais dans les projections qui sont faites par les gens de santé publique puis les d'autres instituts qui conseillent, là, puis avec tout ce que vous venez de dire, là, le retour en classe dont on va mesurer l'effet dans les prochains jours et tout ça, est-ce que dans les courbes, il y a une date où on voit que le nombre d'hospitalisations risque de baisser? Autrement dit, est-ce qu'il y a un horizon qui existe en se disant, selon les calculs puis les projections, c'est peut-être quelque part en début février ou mi-février? Avez-vous ça comme outil?
Oui, on a les données. En fait, les données pour les projections d'hospitalisation nous viennent de l'INES, là, et elles sont sorties hier, on les a vues mercredi. Les données les plus à jour qu'on a, il y en aura d'autres sous peu, très rapidement. On est capable de faire rouler ça beaucoup. Et je vous dirais que l'important, c'est d'abord, il y a des données qui sont sorties hier soir, là, vous avez pas vu, là, à 11h30, qui nous montrent que cette pente-là, cette courbe-là, est toujours en train d'aller vers le bas, et c'est tant mieux, là. C'était pas juste une petite bosse, puis après ça, on remonte, là. Attends à aller vers le bas. On a besoin encore, je vous dirais, d'un trois jours, là, de données pour vraiment s'assurer que cette tendance-là, se maintienne, en tout cas, se projette à être maintenue. On a beaucoup d'expérience à partir des autres juridictions dans ce contexte de COVID et on regarde comment ça évolue aussi dans les différents contextes internationaux pour pouvoir appliquer ça et faire une translation sur notre situation. Mais on suit ça d'heure en heure.
Mais juste pour que je comprenne encore mieux, là, ces projections qui sont faites vous laissent croire que le réseau de la santé va être capable de fonctionner, donc on va pouvoir passer à la levée graduelle de certaines mesures. Vers quelle date que ça, selon vos graphiques, qu'on devrait avoir un système de santé moins en danger?
Bien, à tous les jours, si on continue, il y a de moins en moins en danger, mais un niveau qui serait acceptable, selon moi, je pense que si les tendances se maintiennent, on pourrait voir un paysage s'éclaircir la semaine prochaine, pas suffisamment solidement, mais d'une façon assez solide pour nous dire que, rendu mettons à la fin du mois là, actuel, on pourrait être capable d'avoir des mesures levées. Mais M. Arcan, donnez-moi la chance d'avoir toutes ces analyses-là faites avec les équipes de toute nature pour vraiment calibrer tout ça, en tenant compte aussi, comme vous le mentionniez d'entrée de jeu, de la fatigue du fait que les gens sont tannés. Et le premier ministre le mentionnait, je pense qu'on vit pas dans une bulle ici, là, dans mon environnement. On est très conscient de ça et qu'il y a une fatigue telle qu'il y a des gens qui commencent à ne plus respecter les règles. Alors, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas continuer d'une manière à se dire on va attendre que tout soit revenu parfait puis on va réouvrir. Non, c'est un calcul de risque Et ce risque-là, il est important. Il est important pour les gens qui ne veulent pas faire la COVID, bien sûr, et qui ne peuvent pas se permettre de faire la COVID, mais il est important aussi pour le moral et la santé de toute l'équipe du Québec, parce que de ce côté-là, il y a aussi la souffrance, là, le fait d'être confiné, puis de ne pas avoir accès au commerce, puis de ne pas avoir la restauration. En fait, il y a des gens, tu sais, dans tous les domaines artistiques, sportifs, vous le savez.
Mais Alors, c'est très important. J'ai une question que vous allez probablement trouver un peu démagogique, mais je vais faire la comparaison quand même. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Des citoyens qui sont de moins en moins enclins à suivre les directives, donc qui peuvent devenir des délinquants sanitaires, ou de permettre aux gens, quelque part en février, au début février, d'aller au gym puis d'aller au restaurant? Qu'est-ce qui est le plus dangereux sur la propagation du virus?
Bon, c'est...
Je sais que c'est démago, là, mais...
Non. Mais M. Arcand, votre question est très bonne, parce que c'est ça qu'on doit calculer en même temps aussi. Il y a un risque d'un abandon pour plusieurs du respect des mesures. Et là, on le sait à ce moment-là que les contacts vont augmenter. Alors, il faut mesurer qu'est-ce qui est le plus acceptable comme gestion de risque en tenant compte de ça et en tenant compte aussi des capacités hospitalières et en tenant compte aussi de la variation d'une place à l'autre comme risque. C'est pas pareil un restaurant et un gym. Là, si je prends l'exemple que vous venez de donner, comme vous imaginez qu'il y a des choses qui peuvent porter plus de risques que moins. Mais le plus important, c'est que les gens qui sont à risque, ceux qui sont plus âgés un peu, plus de 50 ans, là, ça en fait beaucoup, puissent aller chercher cette solidification de leur immunité par une dose de rappel. Ça, c'est le must en ce moment. S'il y a vraiment quelque chose qui doit être fait, c'est aller vous faire vacciner, pas juste eux autres, là, tout le monde, mais en particulier ceux qui sont à risque. Parce que on s'en sortira pas. Là, si ce risque-là demeure encore élevé, que lorsqu'on le contracte, on se retrouve à l'hôpital, puis des fois pire que ça, ben on y arrivera pas. Alors, allons se faire vacciner. Profitons de ça. C'est une technologie moderne, extrêmement solide, largement étudiée, qui va nous permettre de nous en sortir encore plus vite et plus solidement et pour plus longtemps.
Est-ce que vous avez, dans vos données, là, des profils des gens qui sont hospitalisés, puis particulièrement aux soins intensifs? La question plus précise encore, là, est-ce qu'on a des patients au Québec qui sont double, puis peut-être trois fois vaccinés, qui sont aux soins intensifs parce qu'ils ont attrapé malgré tout la COVID?
Bien sûr qu'on en a.
Mais ce que je veux dire, pas des gens qui ont la COVID puis qui sont pas trop malades, là. Des gens en santé qui ont été vaccinés puis qui se retrouvent aux soins intensifs?
Non. Ça, il y en a. S'il y en a, là, il y en a très peu. Ceux qu'on a aux soins intensifs qui ont été vaccinés double ou triple, ce sont des gens qui ont beaucoup d'autres conditions, d'autres maladies chroniques lourdes, là, que ce soit, vous imaginez, là, des immunosupprimés, des patients cancéreux ou des patients avec des maladies pulmonaires ou cardiaques. Ça, on en a. Parce que ces gens-là tirent tout le bénéfice possible de la vaccination, mais on ne peut pas enlever leurs conditions de base. Et lorsqu'ils sont infectés, ils peuvent aller vers l'hospitalisation. Vous savez, le vaccin n'est pas parfait, mais s'il réduit de 90-92% votre risque d'avoir une infection grave qui vous amène à l'hôpital, c'est vraiment mieux que zéro, là. Alors, donc oui, on en a, mais chez les gens qui ne sont pas vaccinés, là, on a des gens jeunes et qui, malheureusement, attrapent une COVID, et là, c'est une détérioration hâtive, rapide pour un certain nombre d'entre eux, pas tous, heureusement, et depuis le mois de juillet dernier, là, toutes les deux semaines, on perd une jeune personne de moins de 40 ans à toutes les deux semaines. Et dans la quarantaine, c'est encore plus que ça. Alors, il y a quelque chose. Il faut être sensible à ça. Ceux qui ne sont pas vaccinés prennent de très gros risques et au moins 10 fois plus d'hospitalisation, de soins intensifs et de mortalité. Là, on parle de 20, 25, 30 fois plus. Donc, il faut rester prudent. Ces gens-là compte encore aujourd'hui pour à peu près le tiers des hospitalisations. Et ça s'approche, ou en tout cas, on était à 50 %, là, ça change un petit peu à peine, là, mais mettez la moitié des soins intensifs, et je ne parlerai pas des décès, là, parce que c'est encore plus dramatique. Alors, donc, il faut garder à l'esprit que la vaccination reste un outil sécur et extrêmement efficace. Allons-y, puis profitons-en.
OK. C'est pas une question que je vais vous poser, c'est une impression que je veux partager avec vous. J'écoutais le point de presse hier, là. J'avais l'impression d'avoir un premier ministre qui, lui, voulait ouvrir, qui voulait amoindrir les mesures, puis qui, dans le fond, dit aux Québécois, « Moi, je veux, c'est le gars à côté de moi qui veut pas. Puis le gars à côté de lui, c'est vous. » C'est comme si on se disait, le politique a besoin que les gens sortent, ils voient des sondages comme moi. Puis, de l'autre côté, c'est vous le méchant là, qui empêchez qu'on puisse avoir une reprise de nos activités. Moi, j'ai senti ça hier.
Oui. Ben moi, je suis pas méchant, hein, en gros. Là. Et puis, ce que je veux, c'est d'essayer de faire en sorte que tout soit mesuré pour une protection équitable. Pas équivalente, on ne l'atteindra jamais, mais équitable et raisonnable dans le contexte actuel. Et j'en l'entends très bien, là, le premier ministre, j'étais assis à côté, bien sûr. Ça vous donne un signe qu'il respecte l'indépendance de la Direction nationale de la santé publique. Et ça, c'est une bonne chose, non seulement pour moi, mais pour toute la gestion de la situation actuelle. Donc, de ce côté-là, vous pouvez être assuré. Et en même temps, soyez assuré que j'entends le message, non seulement du premier ministre et du ministre de la Santé, mais j'entends le message qui nous provient de partout sur le fait qu'on est tanné, on veut passer à autre chose. C'est vrai. Alors, apprenons à vivre avec le virus. Et apprenons à vivre avec le virus, c'est-à-dire apprenons que le système, il est fragile, puis il faut vivre aussi avec notre système de santé actuellement, puis il se solidifie, ce système-là, même si les gens sont fatigués, sont épuisés, puis ils ont donné énormément, mais il est en voie de se solidifier, j'ai confiance de ce côté-là, mais en même temps, prenons aussi nos responsabilités, évitons les contacts non nécessaires, soyons prudents et allons nous faire vacciner.
OK, en terminant, est-ce que je me trompe si je dis qu'à partir des données puis de la lecture que vous allez faire de la situation la semaine prochaine, vous allez savoir à peu près vers quelle date on va retourner vers les restos, aller au gym, aller au cinéma. Avec d'autres mesures, là, moins de capacité et tout ça, mais est-ce que je comprends qu'avec ce que vous aurez comme info la semaine prochaine, vous êtes en mesure d'avoir, disons, un calendrier un peu plus précis dans votre tête?
Oui. Oui, absolument. Et c'est ce que j'ambitionne le plus, à moins que les données se mettent à revenir en brouillard et que l'on ne sache pas. Mais, M. Arcand, si je ne ferai pas de jeu de mots, là, mais si la tendance se maintient, on devrait être capable de prendre des décisions éclairées, solides, prudentes et intelligentes. Je pense qu'on est capable de faire ça. Et je vous parle pas juste de moi, là.
Je vous parle
de toute l'équipe et une équipe qui se donne énormément pour le bien-être de la santé publique, bien sûr, mais de la santé de tous, en tenant compte de tout. Et croyez-moi, on est bien conscient de tout ce qui se passe, de tout ce qui est désiré. Puis en même temps, je pense qu'on est sur la bonne voie.
Docteur Boileau, merci. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup, M. Arcand, et bonne journée.
Docteur Luc Boileau, directeur national de la santé publique.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
On le voit un peu partout ce matin dans les journaux, puis on en parle depuis quelques jours, et quand on regarde les froids quand même importants, là, comme une journée typique, là, moins 19, puis après ça, moins 18, on se demande un peu quel est l'impact pour ce qui est des écoles du Québec. On le voit, là, des écoles mal ventilées, où les profs doivent ouvrir les fenêtres, j'ai plein de témoignages. L'air frais, c'est bon, là, mais quand tu es obligé d'avoir... des enfants qui s'en mitouflent un peu plus puis qui doivent, disons, rester en classe pour rétablir la qualité de l'air, alors qu'on a tardé à installer les détecteurs de CO2, mais on a surtout tardé à mieux ventiler les classes pour qu'on n'ait pas ce genre d'exercice à faire. Alors, quelle était la question numéro un quand on a autorisé le retour en classe? Quel sera l'impact de la contamination dans le réseau scolaire? On sait qu'il y avait beaucoup de cas avant Noël. À quel moment on va les voir? Je fais le point ce matin avec Olivier Drouin, qui est le fondateur de l'initiative citoyenne COVID École du Québec. Monsieur Drouin, bonjour.
Bonjour.
On sait que c'est plus difficile d'avoir des données là, avec les changements de stratégie. Première question pour vous ce matin, qu'est-ce que je dois savoir sur ce qui se passe actuellement à l'école à partir des infos que vous recevez?
Ben, je vous dirais que pour utiliser l'analogie de la lumière au bout du tunnel, les travailleurs sur le terrain qui creusent le tunnel trouvent qu'il fait très noir et très froid. Donc, noir dans le sens qu'on est, c'est invisible maintenant. On ne voit plus les cas dans les classes et dans les écoles. Ce n'est plus déclaré. Des parents hier me rapportaient qu'ils ont reçu une lettre pour des poux dans la classe, mais pas pour les cas de COVID des élèves dans la classe. Donc, on est un peu, on navigue à l'aveugle en ce moment pour ce qui est des déclarations de cas. Juste avant le temps des fêtes, comme vous avez dit, il y en avait beaucoup, 1000 à 1500 par jour, à peu près 50% des éclosions au Québec qui étaient dans les milieux scolaires et de garde. Aujourd'hui, si on regarde l'étude de l'Institut de recherche Cyrano qui vient tout juste de sortir, là, il y aurait entre 33 000 et 58 000 cas par jour au Québec non déclarés. Fait que si on prend 30 % de ça, il y a peut-être 10 000 cas par jour dans les écoles en ce moment, si on prend les estimés.
OK. Mais on parle des enfants, on parle des enseignants-enseignantes, on parle du personnel. Quand vous regardez ce que vous avez comme info, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de cas. Puis je pense aux profs, par exemple, qui vont devoir se retirer pendant X nombre de jours. Là. Ça veut dire que les prochaines semaines, ça va être assez chambranlant.
Exactement. Si on regardait, il y avait à peu près entre 600 et 800 éclosions actives avant le temps des fêtes dans les écoles par jour. Donc, effectivement, ça va créer une pression sur le réseau. On a entendu le plan de contingence du ministre par décret là, qui inclut même d'enlever la notion de ratio maître-élève, c'est-à-dire que deux groupes peuvent être fusionnés pour augmenter le nombre d'élèves en classe. Et là, ben, le nombre d'élèves en classe va faire en sorte que le taux de CO2 va augmenter encore plus sur les capteurs.
Bon, là, j'ai reçu beaucoup de courriels avec des photos d'enseignants qui ont pris une photo du fameux capteur de CO2. Et là, tu te rends compte que si la norme, c'est 1500 ppm, puis à partir au-dessus de ça, il faut s'inquiéter. Là, j'ai des captures d'écran à 2800, 3000, puis on peut ouvrir les fenêtres, ça baisse pas si vite. Est-ce que vous avez également, vous, ce genre d'informations-là?
Oui, exactement. Le 17, donc lundi, j'ai lancé sur le site de COVID École Québec une plateforme pour que les enseignants, le personnel scolaire puissent soumettre d'une façon anonyme les lectures avec tous les paramètres, là, donc quelle était la température, le nombre de fenêtres ouvertes, etc. J'en ai reçu à peu près 200. Et sur ce 200-là, je vous dirais qu'il y en a 35 à 40 % là, qui sont bien au-dessus de 1500, comme vous avez dit. Mais pour faire ça simple, là, le niveau de CO2, on regarde pas ça comme le ministère en parle comme étant les paramètres de confort. Mais là, ici, on parle de la COVID, on parle d'une pandémie. Puis plus on respire de l'air avec un CO2 élevé, ben plus on respire l'air des autres dans la classe. Et cet air-là, s'il est contaminé, ben on attrape la COVID.
Donc, ça veut dire que les prochains jours vont être assez déterminants. Là, on va voir 10, 12 jours après le retour en classe, quel est l'impact réel. Puis si on retourne à une situation assez, qui peut basculer. Parce que j'ai beaucoup de profs qui se demandent à quel moment ils vont retourner en télé-enseignement. Puis les parents se posent la question aussi. Donc, c'est un vrai test qu'on est en train de passer, là.
Mais ce qui arrive en ce moment sur le terrain, c'est que là, on est en autogestion, comme le gouvernement utilise le terme. Les centres de services ne publient pas les cas, mais il y en a du côté anglophone, comme Lester B. Pearson, qui ont été un peu proactifs et qui ont commencé à déclarer les cas dans leurs classes, dans leurs écoles. On voit des 30 et des 20 et des 40 cas par école, par jour. Donc, c'est sûr que oui, il y a un impact déjà sur les bris de service. J'ai plusieurs anecdotes, elles ne sont pas chiffrées, là, mais j'ai plusieurs, un peu comme vous, je reçois beaucoup de témoignages des bris de service, des profs manquants. Transport scolaire, on n'en parle pas beaucoup, là, mais les chauffeurs d'autobus sont très impactés. Donc, il y a des bris de service beaucoup dans la Naudière, Terrebonne, etc. Donc, on le voit, là, ça commence, ça fait juste trois jours et demi là, d'école. Mais effectivement, comme vous dites, là, dans les 7 à 10 prochains jours, on va avoir une idée. Et le gouvernement, par décret, a décidé que c'était 60 % des absences en ligne qui allaient faire en sorte qu'une classe allait basculer en ligne. C'est beaucoup. Si on regarde dans d'autres provinces, ça peut être 20 % en Alberta seulement.
Parfait. M. Drouin, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Bonne journée. Olivier Drouin,
le fondateur de l'initiative citoyenne COVID École Québec, surtout qu'avec les changements, c'est de plus en plus compliqué d'obtenir le portrait des écoles du Québec. Puis M. Drouin fait très bien ça.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Le froid, on le réalise, puis on va le réaliser pas mal aujourd'hui, la nuit prochaine, puis un petit peu aussi au début de la fin de semaine. Simon Legault, météorologue à Environnement Canada, est avec nous. Monsieur Legault, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Bon, alors, on s'en va vers quoi? 48 heures de froid assez intense?
Oui, effectivement. Donc, c'est très froid aujourd'hui, samedi. Un peu moins dimanche, ça va être un peu plus venteux cependant, mais quand même beaucoup plus confortable. On va rester sur le normal. Il faut penser que maintenant, à ce moment-ci, les moyennes, c'est environ moins 6 au maximum. Donc, on est nettement au-dessus de ça. La semaine prochaine va rester quand même un peu froide par moment, mais pour reprendre une expression utilisée beaucoup, on voit la lumière au bout du tunnel là, d'ici la fin du mois de janvier. On va avoir un retour aux températures beaucoup plus normales pour commencer février.
Bon, alors aujourd'hui, c'est quoi? C'est ensoleillé, mais froid, autour de moins 19?
Oui, donc les deux prochains jours, c'est pas mal le portrait. Il n'y aura pas beaucoup de vent, un tout petit peu. Température froide le jour aussi, mais très froide le matin. On le voit ce matin, là, du moins 25, moins 26. C'est pas record, mais ça cause quand même des problèmes sur les routes. On entendait parler d'accrochage, des gens qui ont perdu le contrôle parce que les routes sont très froides, donc on perd l'adhérence. Mais aussi près des cours d'eau, près des ponts ce matin, il y a la glace noire qui se forme. Et donc ça rend ça très difficile de circuler ce matin. Donc faut être vigilant à ces situations-là.
OK. La nuit prochaine, vraiment, moins 29?
Peut-être même plus bas que ça. On s'attend à battre le record pour la journée là, du 22 janvier. Depuis 1994, on n'a jamais enregistré un moins 30 degrés à Montréal. Donc, c'est très, très rare qu'on a aussi froid. Donc, on pourrait battre le record pour demain matin. C'est vraiment le creux de la vague, si on veut.
Et ça veut dire donc toute la nuit, puis la matinée, puis après ça, ça va se stabiliser un peu. Ça va demeurer froid, mais moins intense.
Mais ça va être moins intense, mais ça va se réchauffer jusqu'à moins 19, moins 20 pour samedi. Ça reste quand même une journée très, très froide, ouais, comme le sera aujourd'hui. Donc, si on doit être à l'extérieur, c'est de bien s'habiller. Il y a un tout petit peu de vent qui peut quand même causer un refroidissement éolien pas extrême, mais désagréable au courant de la journée. Mais le matin, avec un moins 30, les refroidissements éoliens pourraient être dans le moins 38, moins 40, c'est possible dans la grande région de Montréal, disons.
OK. Et dites-moi donc, ailleurs au Québec, là, ça a l'air de quoi? J'ai des auditeurs qui me parlent ce matin de moins 32, moins 33, moins 34. Est-ce qu'ils essaient de me raconter des histoires ou ça se peut?
Non, Trois-Rivières, on a dans ces eaux-là, ce matin à Elmont, on parle de moins 39 degrés Celsius, le mercure à Chicoutimi, on parle de moins 34. C'est très froid ce matin, donc c'est un peu le début de cette vague de froid-là. Du côté de l'ouest de la province, ça va s'améliorer aujourd'hui quand même avec un vent du sud, mais pour le reste, disons le centre, la vallée du Saint-Laurent, ça va falloir attendre la journée dimanche pour être plus confortable.
Parfait, merci M. Legault.
Ça fait plaisir, bonne fin de journée.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.